Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 21 Nisfand, 1400 du calendrier iranien, 12 mars 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. Le président azerbaïdjanais salue les pourparlers politiques réguliers entre Bakou et Téhéran et appelle à une coopération bilatérale renforcée. En Ukraine, l'étau se resserre autour de la capitale Kiev. L'Iran se réserve le droit de riposter aux actions criminelles d'Israël. Et une majorité des Américains désapprouve l'action du président Joe Biden. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'action militaire russe en Ukraine en est maintenant à son 17e jour, alors que les forces russes resserrent l'étau autour de la capitale, Kiev, tandis que la ville de Loutsk, près de la frontière polonaise, est ciblée pour la première fois. Les forces russes se sont repositionnées et se regroupent au nord-ouest de Kiev. Les aérodromes des villes occidentales ont également été attaqués. Dans le centre-est de l'Ukraine, des frappes russes ont frappé Dnipro pour la première fois, tuant au moins une personne. L'Ukraine a accusé les forces russes d'avoir frappé un hôpital psychiatrique près de la ville d'Izoum, dans l'est de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'il ouvrirait des couloirs humanitaires depuis Kiev, Soumy, Kharkov et Mariupol. Les dizaines de milliers de personnes ont été évacuées ces derniers jours par des couloirs humanitaires. Selon le Bureau des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, près de 600 civils, dont 41 enfants, ont été tués en Ukraine jusqu'à présent. Toujours au sujet de l'Ukraine, le président Zelensky affirme que son pays a déjà atteint un tournant stratégique dans le conflit avec la Russie et se dirige vers la victoire. Zelensky dit qu'il ne sait pas combien de jours il faudra pour la terre ukrainienne libre, mais ils le feront. Depuis le début du conflit, le 24 février, Zelensky s'est adressé aux Ukrainiens avec une série de messages depuis Kiev. Il a reçu le soutien d'autres États européens et des États-Unis qui ont fourni de l'argent et des armes à l'Ukraine. Ils ont également imposé des sanctions sévères à la Russie, mais ont rejeté la principale demande de Zelensky, à savoir la création d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Les pays occidentaux disent qu'ils ne veulent pas s'engager directement dans une guerre avec la Russie. L'Union européenne a également rejeté l'adhésion rapide de Kiev au bloc européen. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a réitéré la position de Téhéran sur la nécessité de régler la crise en cours en Ukraine par des voies politiques, affirmant que la République islamique d'Iran est prête à envoyer une aide humanitaire aux réfugiés. Nous ne voyons pas la guerre comme une solution ni en Ukraine, ni au Yémen, en Afghanistan et nulle part dans le monde, a déclaré Amir Abdollahian dans une conversation téléphonique avec le ministre polonais des Affaires étrangères. Il a ajouté que la société iranienne du Croissant Rouge avait envoyé un avion transportant de l'aide humanitaire aux réfugiés en Ukraine en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge. L'Iran et le groupe des pays 4 plus 1 ont annoncé une pause dans les pourparlers de Vienne sur une éventuelle relance de l'accord iranien de 2015. Téhéran déclare que toutes les parties concernées se concentreront sur une conclusion réussie du processus diplomatique. La pause a été annoncée pour la première fois dans un tweet vendredi par le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, qui a déclaré que la pause était nécessaire en raison de ce qu'il a appelé des facteurs externes. Un texte final est essentiellement prêt sur la table, a déclaré Borrell, ajoutant que lui et son équipe seront en contact avec les cinq parties de l'accord de 2015, officiellement appelé le plan global d'action conjoint. Il a déclaré que les États-Unis doivent faire des efforts pour surmonter la situation actuelle et de conclure l'accord. L'Iran dit qu'il se réserve le droit de répondre à l'attaque terroriste israélienne qui a tué deux conseillers militaires iraniens en Syrie. La mission iranienne auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que l'attaque était hautement provocatrice et visait à accroître les tensions. Dans une lettre au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, la mission iranienne a sérieusement mis Israël en garde contre de nouvelles mesures aventureuses et malveillantes. La lettre indique que la République islamique d'Iran, tout en tenant le régime israélien pleinement responsable de toutes les conséquences de ses actes criminels et en avertissant sérieusement le régime sioniste de commettre des actes aventureux et vicieux dans la région, se réserve le droit de répondre à tout moment à de tels actes criminels de la part du régime israélien sur la base de son droit inhérent à la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. La République islamique d'Iran a appelé la communauté internationale à condamner fermement de telles actions de la part du régime de Tel Aviv et à demander des comptes à Israël. Le 7 mars, le régime sioniste a lancé des frappes aériennes sur un site près de la capitale syrienne, Damas. Elles ont tué deux membres du corps des gardiens de la révolution islamique qui se trouvaient en Syrie dans le cadre d'une mission de conseiller militaire. Une majorité des Américains désapprouve l'action du président Joe Biden, en particulier sa gestion de la hausse de l'inflation dans le pays selon les résultats d'un récent sondage. Il a été mené par le Wall Street Journal. Le sondage a révélé que 57% des personnes interrogées désapprouvaient le bilan de Joe Biden. Rien que sur l'économie, 63% lui ont donné des notes négatives. La moitié des personnes interrogées ont déclaré que l'inflation constituait leur préoccupation majeure. Seulement 42% ont approuvé le travail du président Biden. C'est à peu près le même pourcentage dans une enquête du mois de novembre. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a salué les négociations politiques régulières entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran et a appelé au développement de la coopération bilatérale entre Bakou et Téhéran. J'apprécie les pourparlers politiques réguliers entre Bakou et Téhéran et la coopération dans un certain nombre de domaines. Je pense qu'il existe de nombreuses perspectives de développement ultérieur de notre coopération mutuellement bénéfique, a écrit le président Aliyev dans un message adressé à son homologue iranien Ebrahim Raisi à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran. Le président azerbaïdjanais a ajouté que la volonté des deux nations, qui a ses racines dans les points communs religieux et culturels, constitue la base des liens entre les deux pays, soulignant que les relations sont basées sur le respect mutuel et le bon voisinage. Le haut niveau de nos relations amicales est le résultat des activités conjointes de nos pays au cours des 30 dernières années. Au fil des ans, de nombreux voyages réciproques, des documents et accords signés, ainsi que les projets communs, ont joué des rôles importants dans le développement de notre coopération dynamique dans les domaines politiques, économiques, des transports, énergétiques, culturels et autres, a noté le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Il a également appelé à l'établissement de liens commerciaux entre l'Iran et les régions économiques du Haut-Karabakh. Les régions sont passées sous le contrôle de la République d'Azerbaïdjan après qu'Erevan et Bakou se soient battus pour la région contestée du Haut-Karabakh. Le conflit de 6 semaines, qui a fait plus de 6 500 morts des deux côtés, s'est terminé en novembre 2020 avec un accord négocié par la Russie qui a laissé la République d'Azerbaïdjan de prendre en main le contrôle du Haut-Karabakh. Le président Aliyev a ensuite évoqué les projets de reconstruction dans la région du Haut-Karabakh et a appelé à la participation des entreprises iraniennes au processus dans un avenir proche.
Bu Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Selon le quotidien américain Wall Street Journal, les dirigeants de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis ont refusé d'organiser ces dernières semaines des appels avec le président américain Joe Biden, le président américain qui voulait, toujours selon ce quotidien, demander aux dirigeants de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis pour ouvrir le robinet de leur pétrole afin de contenir, si vous voulez, la flambée des prix du pétrole sur les marchés mondiaux du fait, en fait, de cette opération militaire de la Russie en Ukraine. Ben, comment peut-on expliquer ce refus, si vous voulez, des dirigeants de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, d'autant plus qu'il y a eu ensuite une autre information qui est tombée, comme quoi, en fait, les Émirats Arabes Unis s'étaient pliés, si vous voulez, à cette exigence côté de Washington pour, en fait, augmenter production de son pétrole. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre, et de regarder, d'écouter un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après.
La position des pays arabes de l'Asie de l'Ouest, comme les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, qui sont les principaux alliés de Washington dans la région, envers la crise ukrainienne, pourrait être significative. Alors que les États-Unis s'attendaient à ce que les pays arabes se rangent du côté des États-Unis dans le conflit russo-ukrainien et soutiennent leurs actions contre la Russie, Abu Dhabi et Riyad, ainsi que d'autres pays du Golfe Persique, ont d'abord tenté de faire preuve de neutralité, mais il s'est avéré plus tard qu'ils ont plus tendance à soutenir la Russie dans son opération militaire contre l'Ukraine. Les Émirats Arabes Unis ont été l'un des pays qui, avec la Chine et l'Inde, se sont abstenus de voter lors du vote du Conseil de sécurité sur un projet de résolution américain appelant au retrait des troupes russes d'Ukraine. D'autre part, alors que les prix du pétrole sur le marché mondial continuent de grimper en raison des sanctions américaines contre la Russie, les États-Unis ont appelé à une augmentation de la production pétrolière saoudienne, mais le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, a déclaré lors d'un entretien téléphonique la semaine dernière avec le président français Emmanuel Macron que son pays était attaché à l'accord OPEP, plus avec la Russie, et fournira progressivement du pétrole brut au marché. Alors que les économistes prédisent que le prix du pétrole pourrait grimper jusqu'à $300 le baril à la suite de la crise ukrainienne et des sanctions américaines contre la Russie, l'accent mis par l'Arabie saoudite sur l'accord OPEP pourrait être un désastre économique pour l'Europe et les États-Unis. De même, Mohammed bin Salman, qui n'est pas satisfait du comportement de la nouvelle administration américaine dirigée par Joe Biden contre l'Arabie saoudite et la personne de MBS, dans une interview au magazine américain The Atlantic, il a pris une position sans précédent contre Biden et a dit qu'il se fichait que Biden l'ignore. En plus, ces dernières années, Washington a commencé à limiter son engagement militaire dans la région, même au moment où ses alliés les plus proches, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont été ciblés par des frappes de représailles d'Ansar Allah. À vrai dire, les pays arabes du Golfe Persique sont arrivés à cette conclusion que, premièrement, l'influence et le rôle américain en Asie de l'Ouest sont en déclin. Deuxièmement, ils ont évalué l'attitude des États-Unis envers l'Ukraine et sont arrivés à la conclusion que les États-Unis ne soutiennent fondamentalement pas leurs alliés en cas d'urgence.
Merci infiniment d'avoir choisi cette émission des débats. Et j'ai avec moi pour cette émission depuis Moscou un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Fabrice Beurre. M. Beurre, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, toujours un plaisir d'être sur Presse TV.
J'ai également avec moi pour cette émission depuis Paris ou Damas, je ne sais pas si c'est Paris ou Damas, c'est depuis Paris, une analyste franco-syrienne, Madame Aïssa Midani. Madame Midani, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous et bonjour à vous, à votre équipe et à votre invité. Bonjour.
Madame Midani,
et à tous les téléspectateurs.
Merci. Madame Midani, première question, comment expliquez-vous en fait ce qui se passe actuellement entre l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et les États-Unis, si vous voulez, d'Amérique, de plus précisément Joe Biden, s'il vous plaît?
Alors, je crois et je l'espère que les Émirats Arabes Unis avec l'Arabie Saoudite commencent à comprendre effectivement le rôle des États-Unis par rapport à leurs alliés et par rapport à leurs alliés, entre guillemets. Ils demandent quand même, ils voient quand même que depuis le retrait de l'Afghanistan, la manière dont ils ont jeté leurs alliés afghans, la situation par rapport à l'Ukraine, la manière dont ils ont attisé la guerre aussi en poussant Zelensky et puis l'Union européenne aussi à attiser le conflit et à aller en guerre contre la Russie. Et la manière dont ils ont été, délaissés, en fait, hein, où il y a effectivement des déclarations claires et nettes que les États-Unis n'iront pas combattre à la place de leurs alliés. La manière aussi dont ils poussent les sanctions, en fait, ils poussent l'Union européenne dans des sanctions qui vont mettre effectivement à genoux l'Union européenne, qui vont affamer le peuple de l'Union, tous les peuples de l'Europe, en fait, à commencer par l'Allemagne et la France, en fait, les affamer dans un sens où interdiction du gaz et puis de l'énergie, de toutes les forces d'énergie. On sait que ça agit complètement en direct déjà sur les possibilités de chauffage et de l'industrie, et d'un autre côté aussi sur les possibilités d'approvisionnement, ce qui fait que effectivement ils sont en train de les pousser à la famine, je dirais, et surtout pousser l'économie à une grave crise économique de l'Europe. Donc en fait, j'espère qu'ils ont compris que les États-Unis combattent avec le sang des autres, hein, et qu'aujourd'hui, en poussant effectivement, en voulant pousser l'Arabie Saoudite à augmenter la production du pétrole, c'est aussi pour continuer à attiser la guerre contre la Russie et éviter et trouver une alternative pour l'Europe au niveau du pétrole et de l'énergie. Je pense que Mohamed Ben Salman essentiellement a compris ceci, surtout que Biden, depuis qu'il était élu, ils sont en train aussi de manier vis-à-vis du pouvoir saoudien à la fois la carotte et le bâton pour aussi soutirer le maximum d'argent, mais aussi d'un autre côté agiter le bâton de l'assassinat de Khashoggi, etc. Donc en fait, ils maintiennent la pression contre l'État saoudien pour le garder à leur botte, en fait, et pas du tout en tant qu'allié. Je pense que aussi les Émirats ont compris. Dernier point, je voudrais dire aussi que d'un autre côté, alors que les Américains affichent aussi une volonté de retourner à l'accord sur le nucléaire dont ils sont sortis de manière complètement illégale, etc. Et qu'en même temps, ils continuent à vouloir attiser les contradictions entre l'Iran et l'Arabie saoudite, chose que l'Arabie saoudite a surmontée. Et aujourd'hui, il y a eu plusieurs rencontres avec l'Iran pour comprendre quand même que, j'espère qu'ils sont sur la voie de la compréhension, que l'Iran n'est pas un ennemi, mais c'est un ennemi qui était inventé par l'Occident, et qu'aujourd'hui, l'intérêt de tous les pays de la région, c'est de faire une complémentarité économique et d'être tous du même côté, mais du côté des peuples et du côté surtout du respect de la souveraineté des pays et de leur indépendance.
Monsieur Beurre, vous avez en fait entendu Madame Midani, qui espère voir les dirigeants de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis de se rendre à l'évidence, se rendre compte que voilà, les États-Unis combattent avec le sang des autres. Autrement dit, que les États-Unis ne sont pas, absolument pas, si vous voulez, de fiables et abandonnent si leurs intérêts l'exigent, leurs alliés les plus proches. Votre analyse, s'il vous plaît.
Oui, c'est une évidence que la manière de faire de l'impérialisme américain, c'est une évidence qu'elle apparaît aujourd'hui de plus en plus aux dirigeants du monde, pour la simple bonne raison que, comme il a été dit auparavant et justement, les États-Unis, on le voit aujourd'hui en particulier avec ce qui se passe sur le dossier ukrainien, les États-Unis se battent avec le sang des autres. Je prendrai un exemple et je vais revenir d'une manière plus globale en répondant à votre question. Les Américains, après que les Russes aient détruit l'essentiel de l'aviation ukrainienne, ils ne veulent pas évidemment faire une no-fly zone parce que ce serait mettre les pieds dans un engrenage dans lequel ils ne veulent pas. Et ils avaient comme idée d'envoyer des vieux avions que pouvait encore avoir la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie. Alors ces deux derniers pays ont dit non, il restait des avions polonais. Les Polonais ont dit bah ouais, on veut bien, mais au début c'était non. Et puis après il y a dû avoir une pression américaine. Ils ont dit ok, alors on vous les donne sur la base de Rammstein en Allemagne. C'est vous qui allez les donner directement, les Américains, à l'Ukraine. Et les Américains évidemment ont dit ah non, pas nous. C'est une preuve qu'ils veulent se battre pour l'Ukraine jusqu'à la dernière goutte de sang d'un soldat européen, ukrainien dans le cas précis, et européen. Donc on a bien une situation qui démontre la duplicité américaine qui est visible. Il n'y a que les aveugles ou les fanatiques qui ne peuvent pas les voir. Et en ce qui concerne la non-réponse de l'OPEP+, en ce qui concerne l'augmentation du baril, c'est pas que, enfin l'augmentation de la production pour baisser les prix, ça sous-entendrait qu'ils viendraient à la rescousse des sociétés occidentales pour continuer la pression et la guerre qu'ils mènent contre la Russie, et pour se retrouver après avec, donc si la Russie s'effondrerait, il n'y aurait plus à ce moment-là que le monde occidental, et ils savent très bien que le monde occidental les considère pour simplement des bédouins du désert avec de l'argent, comme avait dit je ne sais plus quel président américain que pourquoi Dieu avait donné le pétrole aux Arabes, c'était un peu compliqué. Bon voilà, je pars un peu à droite à gauche, mais pour répondre à votre question, c'est pour vous donner l'état d'esprit effectivement des Occidentaux et des Américains. Je pense qu'aujourd'hui le monde est de plus en plus éduqué. Je parle autant des masses d'ailleurs. En Europe, ce serait une autre question, mais en dehors de ce monde occidental, le jeu se voit de plus en plus clairement. Le fait qu'aujourd'hui l'affrontement qu'il y a entre le bloc eurasien, la Russie sur la première ligne, et le bloc occidental dévoile les lignes, remettre des lignes de séparation, et que chacun y voit effectivement aussi ses propres intérêts. Alors, il faut aussi se mettre dans la place des producteurs massifs de pétrole tels que l'Arabie saoudite. Bon, le premier producteur de pétrole au monde, hein, ce sont les États-Unis, faut-il le rappeler. Mais pour autant, plus de pétrole, donc c'est faire baisser les prix. Ça peut, à long terme, c'est, enfin, à long terme, dans un calcul économique, ça peut éviter une crise économique, puisque s'il y a une crise économique, il y a moins de consommation, il y a moins de consommation, il y a moins de consommation d'énergie. Donc, c'est moins d'argent aussi pour faire rentrer dans les caisses des pays producteurs de pétrole. De l'autre côté, effectivement, c'est aussi aider les pays occidentaux dans leur combat, dans leur guerre contre la Russie. Et on sait très bien que la Russie, dans la région, au Proche-Orient, parle avec tout le monde. Et même si les rapports peuvent être rugueux, pour employer un terme diplomatique, avec certains pays, pour autant, c'est une puissance qui stabilise des fois momentanément ou qui peut stabiliser les positions des uns et des autres dans les affrontements qu'il peut y avoir. Donc aujourd'hui, c'est pas, les États n'ont pas d'amis. Il y a des alliances et des intérêts. Et dans le cas précis, souvent des fois, des États qui se sont affrontés, comme en Syrie. L'Arabie Saoudite s'est affrontée avec la Russie en Syrie. C'est extrêmement clair, comme avec les Émirats arabes. Mais aujourd'hui, on est dans une autre période. Et puis, ce n'est pas sur le même terrain. Et je pense que beaucoup de gens voient que cet Occident, avec le pilier principal qui est l'impérialisme américain, va trop loin et qu'ils ne sont plus simplement les pantins et les vassaux bien obéissants qu'ils pouvaient l'être auparavant. Ils commencent à prendre en compte leurs intérêts, ce qui est assez amusant, alors que l'Europe, et l'Allemagne en particulier, va tout à fait dans le sens contraire, c'est-à-dire une soumission et une vassalisation encore plus grande en projetant, dans les 2-3 ans, de passer directement à 100% d'approvisionnement énergétique venant des États-Unis. Donc aujourd'hui, on est dans une tectonique des plaques géopolitiques et on voit les alliances se redéfinir. Et le temps d'avant, pour conclure, le temps d'avant où les États-Unis, Washington suffisait d'exiger pour qu'il puisse y avoir une réponse dans les pays dits du tiers-monde, comme on dit, c'est terminé. Et on le voit bien avec le vote à l'ONU contre la Russie. Beaucoup de pays africains ont refusé de voter ce genre de résolution. Donc on est dans un changement. Et ce changement, effectivement, il ne se passe pas comme il avait été prévu, comme je l'ai souvent aussi indiqué. Il ne se passera pas dans la négociation ou calmement. Il se passe par des affrontements, puisque les rapports mondiaux sont des rapports de force. Nous y sommes. Les lignes vont bouger. Les lignes vont encore bouger. Et j'espère pour le Proche-Orient que les ennemis d'hier, en particulier des deux côtés de la mer Persique, allons-nous dire, vont trouver effectivement peut-être des intérêts communs. Et l'intérêt commun, c'est de s'apercevoir que les États-Unis jouent de leur opposition pour pouvoir imposer leur pouvoir sur la région. Il est temps aujourd'hui que des alliances géopolitiques alternatives puissent s'épanouir afin de garantir la paix, à tout le moins dans le bloc eurasiatique, dans notre bloc.
Madame Midani, en fait, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis refusent d'ouvrir le robinet de leur pétrole pour satisfaire, si vous voulez, cette exigence du côté des États-Unis, plus précisément du côté du président américain Joe Biden. Est-ce que ces deux pays refusent en fait de prendre une telle décision parce que une telle décision pourrait être conçue à Moscou comme un acte, si vous voulez, pro-camp occidental mobilisé actuellement contre la Russie?
En fait, je crois qu'ils essayent de garder une distance par rapport à l'Europe et par rapport aux États-Unis dans ce conflit qui oppose effectivement le monde occidental, la Russie, et ils essayent de prendre un peu plus de marge au niveau de la liberté qui est leur, jusqu'à présent, elle était vraiment très très limitée. Ils avaient pratiquement obligation ils prenaient leurs ordres des États-Unis. Donc maintenant, ils essayent de prendre un petit peu de marge, hein, en voyant quand même ce nouveau monde se profiler, d'une part, et puis ils ne sont pas les seuls en fait à prendre cette position. De plus en plus de pays du tiers-monde, comme l'a dit votre invité, effectivement, qu'il y a quand même une présence mondiale, je dirais, de plus en plus importante, en fait, de cette volonté de s'opposer à un diktat purement, pur et simple américain. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, c'est que je crois que les pratiques des États-Unis, mais surtout aussi les pratiques de l'OTAN, par rapport à tous les autres pays aussi, c'est le diktat qu'on veut imposer, etc., provoque des réactions jusqu'à présent, je peux dire, importantes, même de la part de l'Arabie saoudite et
Merci.
Des Émirats arabes unis.
Monsieur Beurre, selon Mme Midani, en fait, le point qui vient d'être soulevé par Mme Midani, les pratiques des États-Unis et de l'OTAN provoquent en fait des réactions, même, si vous voulez, celles de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.
Oui, il y a deux positions qui sont prises, mais pour moi, elles se rejoignent. Et même si pour certains pays, ou peut-être au sein des élites de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, les deux doivent cohabiter. La première, c'est... c'est une affaire entre vous, occidentaux, laissez-nous tranquilles, ça ne nous concerne pas, ça c'est le premier élément. Puis le deuxième élément qui a été indiqué, qu'on répète, et sur là-dessus évidemment nous sommes tout à fait d'accord, c'est qu'un nouveau monde se dessine. On a bien compris que nous étions passés aujourd'hui véritablement au XXIe siècle, c'est à l'heure actuelle. Et ce nouveau monde, il n'est pas encore évidemment restabilisé. Les alliances vont devoir se redéfinir et il est toujours bon pour un pays de ne pas se mettre à dos les acteurs que l'on voit importants et, de ce nouveau monde qui se dessine, en particulier dans ce bloc eurasiatique avec la Russie. Et la Chine en particulier. Et en cela, cette position, pour l'instant, comme vous l'avez indiqué, effectivement, ils résistent. Peut-être qu'ils vont un peu céder, mais je ne pense pas qu'ils vont céder à 100% aux exigences. Ils vont essayer d'augmenter peut-être un petit peu, ça va certainement arriver, un petit peu ouvrir un peu le robinet, mais pas autant que le voudraient évidemment les Américains pour soulager l'économie mondiale en général, qui est autour de l'énergie, et en particulier leur première colonie, qui est l'Union européenne. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, 2008, ça a été le tournant en réalité. C'est l'intervention, l'agression géorgienne contre l'Ossétie et l'intervention russe. Après, on a eu 2014, le coup d'État du Maïdan. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la Russie a dit stop, on arrête de jouer l'hypocrisie. Nous savons très bien que c'est la position occidentale telle qu'elle est. Si on n'agit pas maintenant, c'est la destruction de l'État russe. Ce pourquoi la Russie agit aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes dans une situation qui oblige. Quels que soient les pays, quelle que soit leur précédente, à part l'Union européenne qui est totalement soumise, mais à part leur précédente, on va dire, affiliation de tel ou tel bloc, à se redéfinir. Et beaucoup préfèrent jouer effectivement la neutralité et l'attentisme, ce qui est finalement peut-être la meilleure position qu'on puisse leur demander, c'est ne pas soutenir le camp occidental. On ne leur demande pas de soutenir le camp russe à la rigueur, mais ne pas participer à cette politique occidentale qui, de toute façon, ne sera pas positive pour eux à long terme. Donc, on est dans vraiment une redéfinition des alliances géopolitiques, ce qui explique l'hésitation des uns et des autres, qui est le début, pour moi, d'un repositionnement géopolitique mondial. Je préciserai, je terminerai là-dessus. Regardez tous les pays qui soutiennent aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine, du côté occidental, ce sont toujours les mêmes pays, ces mêmes pays avec cette politique ultralibérale et mondialiste, et tous ceux qui sont du côté de la Russie, ou du moins qui tempèrent, sont tous des pays qui résistent à cet impérialisme occidental et qui ont une politique qui s'apparente à celle de la cause des peuples et non pas à celle à la cause des marchés.
Madame Midani, très rapidement, s'il vous plaît. Assistons-nous, comme l'a dit en fait M. Beurre, à une redéfinition des alliances, si vous voulez, stratégiques, tant au niveau régional qu'international?
Cette redéfinition, elle se sent parfaitement dans les positions des différents pays. Je voudrais quand même rappeler la position du Pakistan, qui a toujours été l'allié des Américains et l'allié de l'Arabie saoudite aussi. qui a effectivement déclaré « nous ne sommes pas vos valets à tous les pays occidentaux ». Donc il y a ce mouvement effectivement qui se généralise et qui fait tache d'huile et qu'en fait c'est important. Les pays africains, pareil, donc je trouve que c'est très vrai et on espère que cette distance ou cette résistance va en grandissant parce qu'il y a des pays qui montent et des pays qui descendent. Et on voit bien que l'économie américaine comme l'économie européenne est pratiquement en train de s'écrouler, ainsi que l'influence aussi des Américains, la volonté, il y a aussi une volonté de faire des échanges dans les monnaies nationales, et donc refuser aussi cette annexion systématique au dollar.
Merci beaucoup.
Ce que justement la Russie et la Chine ont commencé à faire.
Merci infiniment, Madame Aïssa Hamidani, d'avoir été avec moi pour cette émission par Skype depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à vous, Monsieur Fabrice Beurre, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Moscou. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Céder aux États-Unis ou à toute autre puissance afin d'être à l'abri des sanctions est un coup dur pour la force politique, a souligné le guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Khamenei. La puissance nationale est vitale pour tout pays et toute nation qui veut l'indépendance, la fierté et la résistance aux exigences des autres doit être forte, sinon être faible, humiliée et peureuse apporte une inquiétude constante quant à la cupidité des puissances étrangères, a souligné l'ayatollah Khamenei. La puissance nationale, a-t-il souligné, est un ensemble interconnecté de sciences et technologies, sécurité et puissance défensive, bien-être public et culture, pouvoir politique et pouvoir de négociation pour garantir les intérêts nationaux au niveau régional et mondial, une logique attractive. Des propositions, a-t-il souligné, telles que l'abandon de la présence régionale ou des progrès en sciences nucléaires sont nuisibles à notre puissance nationale, car la première nous donne plus de profondeur stratégique et de force nationale, et la deuxième contribue à répondre à nos besoins futurs. Céder aux États-Unis ou à toute autre puissance afin d'être à l'abri des sanctions est une grave erreur et un coup dur pour la force politique. Il n'y a rien de plus naïf et inepte que la proposition de diminuer la force défensive du pays afin de ne pas rendre l'ennemi sensible, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Avant de faire remarquer, il y avait des individus qui voulaient couper certains bras de la puissance nationale du pays via leurs propositions faibles et répréhensibles qui mettraient aujourd'hui l'Iran face à de graves dangers. Par la volonté de Dieu, la mise en œuvre de ces propositions n'a pas été possible, a-t-il conclu. Le commandant-chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, déclarant que l'Iran a aujourd'hui l'avantage sur ses ennemis, a souligné « Nos réalisations glorieuses aujourd'hui sont le résultat de suivre les directives du leadership, du soutien et de l'empathie du peuple ». Le général de division, Hossein Salami, commandant au chef du corps d'Iranien de la révolution islamique, a tenu ses déclarations lors d'un rassemblement de commandants et d'anciens combattants engagés jadis pour la voie du djihad et du martyr. S'attardant sur le fait que l'ennemi a mobilisé tout son possible et toutes ses cartes, y compris les sanctions économiques, l'intimidation militaire, les opérations psychologiques, la guerre du renseignement, et les opérations visant à couper l'influence régionale de l'Iran, le général Salami a souligné. Mais le corps des gardiens de la révolution islamique reste toujours aussi fermement debout face aux conspirations et à la malveillance des ennemis. Nos ennemis se voient aujourd'hui, a-t-il souligné, vaincus et désespérés dans toutes les cartes. Et le général de Salami a félicité à cette occasion la journée des gardiens de la révolution et a qualifié les vétérans auprès des années glorieuses de la défense sacrée comme architecte de l'histoire glorieuse de la patria et a dit les scènes épiques des années de la défense sacrée n'appartiennent pas seulement à cette période, elles sont durables et instructives pour l'avenir et resteront à jamais gravées dans notre mémoire historique. Se pliant aux pressions US, les Émirats arabes unis, pays membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, ont affirmé qu'ils œuvraient auprès de leurs partenaires du cartel pour augmenter la production. Les sanctions occidentales contre la Russie ayant poussé les prix vers des sommets historiques. Nous sommes en faveur d'une augmentation de la production et nous encourageons l'OPEP à envisager une hausse des niveaux de production, a indiqué l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington, Youssef Al-Kataibar. Les Émirats ont été pendant plus de 50 ans un fournisseur sérieux et responsable d'énergie sur les marchés et ils estiment essentiel la stabilité des marchés énergétiques pour l'économie mondiale selon sa déclaration. Ces propos interviennent alors que l'OPEP est sollicité de toutes parts pour freiner l'envolée des prix du brut attisé par la guerre en Ukraine. Et après la décision des États-Unis et de la Grande-Bretagne d'arrêter d'importer du pétrole de Russie, deuxième plus grand exportateur de brut au monde, derrière l'Arabie Saoudite, en riposte à l'intervention russe en Ukraine. La Chine demande aux États-Unis des explications sur leurs activités biologiques militaires. Le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé aux États-Unis d'Amérique de fournir des explications sur leurs activités biologiques à des fins militaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays, y compris en Ukraine. La Chine a exhorté les États-Unis à clarifier leurs activités biologiques à des fins militaires dans le pays à l'étranger, y compris en Ukraine, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian. La demande du ministère chinois des Affaires étrangères intervient deux jours après que le ministère russe de la Défense a présenté ce qu'il a qualifié être la preuve d'un programme d'armes biologiques soutenu par les États-Unis en Ukraine. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général de division Igor Konadechenkov, a déclaré que Kiev a dissimulé les traces d'un programme biologique militaire mis en œuvre en Ukraine et financé par le Pentagone. Il a poursuivi. Des documents et des preuves ont été révélés lors d'un examen minutieux des traces d'un programme biologique militaire mis en œuvre en Ukraine avec un financement du département américain de la défense, en ajoutant la partie russe a également reçu des documents d'employés de laboratoires biologiques ukrainiens confirmant le développement d'armes biologiques dans le pays. Nous avons obtenu des documents de la part d'employés de laboratoires biologiques ukrainiens selon lesquels les agents pathogènes particulièrement dangereux de la peste, de l'anthrax, de la tularémie, du choléra et d'autres maladies mortelles ont été détruits d'urgence le 24 février, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général de division Igor Konachenkov. Ce n'est pas la première fois que la Chine critique les activités biologiques des États-Unis en dehors de leur territoire et exige des informations sur leurs laboratoires dans de nombreux pays du monde. En octobre dernier, rappelons-le, la Chine a accusé les États-Unis d'installer 16 laboratoires sur le sol ukrainien qui mènent des recherches scientifiques non transparentes et dangereuses, appelant Washington à apporter des éclaircissements à cet égard. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.